Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast 410 de Game Info avec ATH.
Salut.
Le Tyran.
Bonsoir.
Kafka.
Hey tout le monde.
Et Garu. Je remercie le chat d'être présent ce soir avec nous. Je voulais signaler aussi que la conférence Xbox vient de se terminer, donc on pourra pas trop vous en parler ce soir, donc on vous fera une petite sélection subjective la semaine prochaine, donc ça sera pour la semaine prochaine. Donc au sommaire de l'émission, ça sera du jeu, hein, pour pas dire autre chose. Donc beaucoup trop de jeux, donc ça sera une sélection de Kafka et
ouais,
du Tyran.
Ouais, pour les jeux sortis cette semaine déjà.
Voilà. Mm. Voilà, alors hop, donc on va commencer par le premier jeu, à moins que vous ayez des choses à dire avant de commencer.
Jabber Immortal, c'est de la merde. On peut commencer.
C'est une escroquerie.
Alors, le jeu gratuit de cette semaine, Frey Fight.
Ouais, Frey Fight. Alors, vous allez voir, vous allez vite reconnaître, c'est un petit clone de Vampire Survivors, c'est-à-dire, vous déplacez un personnage qui se défend tout seul, et il y a des hordes d'ennemis qui viennent sur vous. Ça a une DA différente par rapport à Vampire Survivor, ça change un peu de style. Puis c'est gratos, donc bon, on pourra pas vraiment les accuser de s'enrichir en surfant sur la vague.
On a une petite vidéo pour illustrer
Excusez-moi, il y a un petit souci technique, c'est bon. Donc oui, c'est du Vampire Survivor. Alors pour info, il y en a eu pas mal des Vampire Survivor-like qui sont sortis ces derniers temps. Il y en a quelques-uns qui ont l'air plutôt pas mal, donc je vous conseille de vous renseigner, de regarder un peu. Si jamais ça, vous êtes bien amusé sur Vampire Survivor et que vous voulez un autre style, il y a pas mal de concurrence qui commence à popper sur le créneau.
D'accord. le prochain petit jeu, c'est Freshly Frosted.
Ouais, là, on passe au petit jeu sympa de la semaine. Ouais. Donc, à petit prix, sauf pour un d'ailleurs. Donc, Freshly Frosted. Donc, là, c'est un petit puzzle game. Alors, vous allez voir, il est assez particulier parce que ça pourrait avoir des airs de Factorio, mais c'est beaucoup plus simple puisque là, ce sont des niveaux plutôt. Donc, en gros, vous devez fabriquer des donuts et vous devez automatiser leur fabrication. Donc, tu vois, là, il y a plusieurs types de donuts, etc. Et tu vas voir qu'en fait, le concept de ce puzzle game, ça va être de positionner, il y a des donuts sur les tapis roulants, et ça va être de positionner les machines qui vont du coup rajouter tel nappage, ou telle forme, ou tu vois, telle chose.
Donc, on est précis qu'on est en vue du dessus, où tu vois le plateau, tu peux poser tes faire circuler ta bouffe, quoi, en gros.
Vachement original,
tu gères une ligne de production, en fait. Hein.
Voilà, c'est ça. Tu gères une ligne de production. Graphiquement, c'est plutôt coloré, hein, c'est vraiment...
Oui.
Moi, je trouve ça très joli.
Ça donne faim.
Donc voilà, vous dessinez les tapis, tu vois comment ça se passe, hein, tu dessines les tapis roulants et puis ensuite, vous... Un jeu fait pour Homer Simpson, nous dit le chat. Tout à fait. Tout à fait. Donc, franchement, petit jeu sympa.
Après, je tiens quand même à préciser que en termes de réalisme, c'est pas trop ça quand même.
Non, là, c'est pas le but, c'est vraiment chill et détente. Hein, c'est un petit puzzle game très cool.
En tout cas, c'est original, ça, c'est clair.
Ouais, hein, bah, tu vas voir, on reste dans le puzzle game cool. Pour le jeu d'après.
Ok, c'est Please Fix the Road.
Ouais, Please Fix the Road. Donc, essayez de, s'il vous plaît, réparer la route en français. Alors là, c'est un puzzle game un peu minimaliste parce que ça se joue avec des tuiles où tu dois placer du coup la route, tu dois réparer la route. Mais là où le jeu est assez fou, c'est que... Alors, il y a des petites contraintes, évidemment, vous vous imaginez bien vu que c'est un puzzle game. Mais regarde l'animation. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu le trailer, si vous l'avez sous les yeux. Si vous ne l'avez pas, allez voir le trailer de Please Fix the Road. Rien que le trailer, déjà, ça va tout de suite vous dire si
alors,
ça peut être pour vous ou pas.
On précise que on est en vue isométrique avec des environnements 3D, mais très stylisés, très low-poly en fait.
Ouais.
3D low-poly. Et effectivement, dès que tu touches aux tuiles du jeu, etc., t'as plein d'animations qui se mettent en branle et tout, qui sont vraiment très détaillées. C'est très stylé. Enfin, tu sens qu'il y a du travail derrière. Quoi.
Ah, ouais, il faut même préciser pour les gens qui écoutent le podcast et qui n'ont pas la vidéo. C'est donc une vue du dessus et où il y a beaucoup de déformations du terrain en fait et avec les actions qui sont prises en conséquence. Par exemple, vous avez un building qui est détruit, bah vous avez des répercussions sur la route. Pour vous donner un peu près une idée de ce que à quoi peut ressembler le jeu quoi.
Ouais, puis t'as toutes les tuiles qui se retournent à des moments et ça te fait une autre map. Enfin, c'est très très stylé. Moi, je l'ai trouvé super beau ce petit jeu.
D'accord, ok. On parle de... Alors le prochain c'est un RTS, donc c'est Imperium BCE, non,
je sais pas. Ouais, je crois que c'est le plus cher de la liste celui-là. Ouais, c'est Imperium BCE, donc Imperium BCE, ouais, je sais pas trop. Donc
c'est
un petit...
Before Christ, enfin BCE c'est avant Jésus-Christ. Hein.
Ok, ok,
ah,
ok.
C'est leur,
d'accord,
ok.
Bah là Tyran, je l'ai sélectionné pour toi, qui me disait que les RTS, il n'y en avait pas tant que ça, donc là il y en a un petit qui pointe. Alors c'est un... Il est un petit peu particulier parce qu'il penche plutôt côté civilisation. Bon, moi, je suis pas très calé en RTS. Hein. Mais
Alors, attention, justement, les civilisations, ce ne sont pas des RTS. C'est des gens toi par toi. Et ce qui est bizarre sur ce jeu, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il a le cul un peu entre deux chaises.
C'est ça, un peu ça. Ouais.
Parce que, bon, pourquoi les jeux comme civilisation sont en tour par tour? Parce que c'est des jeux où tu dois gérer une économie, où tu as des mécaniques assez complexes, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on met du tour par tour, parce que ça te laisse le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre de chaque action, et ensuite de passer à la suite. Du coup, si tu commences à mettre du temps réel là-dedans, ça veut dire, à mon avis, que forcément tu simplifies grandement la partie gestion, en fait, du royaume, etc. De l'autre côté, moi, la partie ETS, je trouve ça un peu bizarre, dans le sens où le jeu est en temps réel, effectivement, mais c'est pas vraiment des combats de RTS, parce que, si tu veux, l'intérêt d'un RTS, en fait, c'est que c'est des guerres de mouvement, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est manipulation des squads.
Voilà, c'est ça, c'est comment je vais positionner mes unités, comment je vais aborder tel champ de bataille, etc. Quoi. C'est ce genre de réflexion-là. Là, ça fait un peu comme si, tu sais, on mettait une civilisation où, genre, t'as l'unité qui va rester plantée devant une ville, qui va attaquer la ville, et il n'y a pas vraiment de mécanique de RTS, si tu veux. En fait, c'est une civilisation en temps réel. Voilà.
Donc c'est un concept,
pourquoi
déjà.
Pas, pourquoi pas. Après, moi, j'ai un peu peur qu'il ait le cul entre deux chaises et qu'il ne satisfasse aucun des deux publics. Mais il faut voir ce que le temps réel apporte au truc. Quoi.
Il a au moins le mérite de sa proposition, déjà.
Ah oui, au moins, c'est pas pareil que Civilization, hein, ça c'est sûr.
Voilà, voilà.
D'accord. On passe au jeu suivant. Rogaro.
Ouais, Rogaros. Donc là, on est dans un petit roguelike action qui porte bien, son
très
nom.
Très coloré. Si vous faut aimer le fluo, par contre, hein, je vous préviens.
Oui, 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 c'est ultra coloré. Donc, c'est graphisme vu du dessus. Hein, c'est...
Avec des tuiles, hein, pareil.
Pareil, c'est du roguelite action. Et on joue, vu que, comme son nom l'indique, on joue une archère. Mm-hmm. Donc, avec plein d'upgrades, plein de builds, plein de plein d'ennemis, etc. Roguelite.
Alors, par contre, attention, c'est vraiment des arènes assez restreintes. Où j'ai l'impression qu'il y a limite un côté puzzle, en fait, dans le jeu, tu vois. Dans le sens où on te met dans une arène avec des ennemis, et les ennemis, c'est un peu un puzzle. Tu sais, un peu comme à Hotline Miami, dans le sens, tu sais, Hotline Miami, t'as toute une réflexion sur comment je vais aborder le niveau, etc. Je me demande s'il n'y a pas un truc, s'il n'y a pas un délire un peu comme ça dans le jeu.
Alors là, c'est procédural, donc ce ne sera pas tout à fait pareil que dans du Hotline Miami.
Oui, mais après, dans du procédural,
mais je vois ce que tu veux dire.
Le procédural, c'est pas de l'aléatoire. Hein,
c'est-à-dire que, oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que là, les arènes sont tellement petites qu'effectivement, moi, je pense que ce sera plus au niveau des compétences qu'il va falloir, à mon avis, bien gérer. J'ai l'impression que, bah oui, tu peux très vite te faire submerger par des petits ennemis et que donc, peut-être, les attaques de zone, ça peut être intéressant. Mais peut-être que, du coup, sur des ennemis plus costauds, ça va pas faire grand-chose. J'ai l'impression qu'il y a un petit jeu d'équilibriste. Mais comme tout bon roguelite, après tout, faire un build, c'est toujours abuser des choses pour en sacrifier d'autres. Donc,
et puis après, bon, il y a les questions qu'on se pose naturellement sur ce genre de jeu, parce que là, comme il y a concurrence au portillon, c'est des jeux assez complexes, tu vois. Donc il faut voir la variété qu'il y a au niveau du jeu, parce qu'en face, ça rigole pas non plus.
Il faut voir le game feel aussi, comment ça se joue. Là, les graphismes sont quand même en joli cel shading, je trouve.
Ouais. Non, en cel shading, moi, je veux dire.
Non, 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 la TH,
n'exagère pas. Sérieux, c'est, franchement, ça fait mal aux yeux.
Un jeu qui ne sera pas au goût graphique d'ATH.
Bah, après, c'est vrai que c'est fluo. Hein.
Ouais, les couleurs sont un peu criardes. Ouais.
C'est coloré, mais au moins, j'ai l'impression que les projectiles. C'est aussi un jeu où il y a énormément de projectiles. Mm-hmm. Tu vois, et je trouve que les projectiles, du coup, ils ressortent assez bien. Ah, sauf peut-être dans cette map où c'était de la lave sur des projectiles en feu. Mm. À voir, de toute façon. Mais ça a l'air.
À essayer.
De toute façon, un petit roguelite, ça fait plaisir.
C'est pas un jeu où tu vas jouer de manière opposée, hein, parce que des ennemis, il y aura
3 milliards sur la carte. C'est nerveux. Ouais, non, c'est roguelite action. Donc, Rogaros.
Ok, bah on passe au jeu suivant, donc c'est The Call of Cruel Heart.
Ouais, là on sort encore d'une catégorie, là c'est les jeux qui sortent un peu plus du lot. Alors, The Call of Cruel Heart, donc je sais pas trop comment... Cruel Heart s'écrit avec un K, hein, si vous cherchez le nom du jeu, vous allez galérer à mon avis. Alors, on est donc... ATH, à mon avis, tu vas pas trouver ça très beau. Parce qu'on est dans du pixel art minimaliste, moi que je trouve plutôt réussi. Donc, où en fait, vous voyez votre village se construit le long d'une ligne, en fait. Un petit peu comme dans les jeux Kingdom New Land, si vous connaissez.
Ouais.
C'est un petit peu pareil, sauf que bah, c'est un peu du Kingdom New Land avec du deck building. Alors, pour ceux qui connaissent pas Kingdom New Land, je vais un petit peu expliquer. Donc, vous avez un espèce de village. Et les ennemis peuvent vous attaquer par la gauche et par la droite. C'est sur un seul plan. Donc, ça vient soit par la gauche, soit par la droite. Votre château, il est au milieu. Et vous construisez des petites choses, des petites... tourelles, enfin des petits bâtiments qui vont se défendre.
Des défenses,
contre les
des bâtiments qui vont voilà. Générer des unités, etc.
D'autres qui vont générer des ressources, voilà, voilà. Et il y a un côté deck building. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, il y a deux choses comparées à Kingdom New Land. Souvent, ce sont des jeux en temps réel. Là, c'est un jeu, en fait, où le temps n'avance que quand tu joues une carte.
D'accord.
Donc, il y a un côté où tu as le temps de réfléchir à ce que tu vas faire.
Oui.
Alors que souvent, dans ces jeux-là, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que souvent, tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est plutôt des jeux où il faut aller vite.
Oui, ça, plus le fait que souvent dans ces jeux, je trouve, comme tu sais, tu dois commander des unités, parce que en fait, dans Kingdom New Land, tu gères une seule unité, et cette unité, elle va te servir à commander les autres unités. Voilà, c'est-à-dire que tu vas juste pouvoir donner des ordres aux autres,
voilà.
Et la seule unité que tu peux contrôler, c'est la tienne.
C'est ça.
Et du coup, parfois, ça peut être un peu fastidieux, tu vois, de...
Ah, quand tu dois courir d'un bout à gauche de la map, droite de la map, c'est ultra pénible.
Oui, ça plus le fait que quand tu veux que telle unité fasse tel truc, que tu donnes un ordre et qu'elle le respecte pas parce que l'IA est totalement conne.
Bah surtout que dans Kingdom New Land, dans mes souvenirs, tu pouvais juste leur donner des pièces, quoi. Tu pouvais même pas vraiment leur donner
mais
des résorts.
Parce que je dis ça parce qu'il y a eu un jeu avec des Vikings récemment qui est sorti qui reprend un peu le principe de Kingdom New Land où tu peux leur donner des ordres pour le coup. Et c'était assez fastidieux et d'une manière générale, moi, Kingdom New Land, je trouvais aussi que c'était le concept était bon, mais c'est juste la partie gestion des unités qui était un peu lourde. Limite, j'aurais bien aimé, tu vois, pouvoir jouer avec la souris et contrôler directement les groupes d'unités, tu vois.
Ouais, moi, je trouvais que ça faisait partie du charme de se dire, bon, juste tu leur donnes des pièces et après, ils se débrouillent. Je trouvais que c'était un peu rigolo. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça devenait un peu frustrant parce que la difficulté de ces jeux-là était assez énervée. Donc là, je trouve que c'est un jeu quand même avec une vraie proposition. Il ramène du tour par tour, entre guillemets, donc ce que je trouve assez intéressant. Donc, même si c'est du semi-tour par tour, parce que quand tu joues une carte, après, t'as l'impression que ça se déplace en temps réel. Mais au moins, bon, voilà, ça a l'air original. Le pixel art est minimaliste, mais pourtant, je le trouve assez bien travaillé. Donc, pourquoi pas.
D'accord, ok. Léa, tu vas nous parler de Space Line from the Far Out.
Ouais, celui-là, c'est prochaine soirée où il y a des gens, prochaine soirée canapé, c'est un jeu que je vais dégainer, parce qu'en plus, il est sur le Game Pass aussi. Et c'est un jeu qui est cross-platform, et il est sorti sur pas mal de supports. Alors, Space Line from the Far Out. Donc là, il faut que vous imaginiez un espèce de overcooked, en termes de graphisme et même entre guillemets de jouabilité, même si là, on dirait qu'il y a plus de possibilités. Mais ensuite, la comparaison s'arrête un petit peu là, parce que, en fait, là, vous êtes dans un roguelite. Mais coopératif, vous avez vu, si vous avez le trailer, vous voyez sur la map, vous pouvez choisir entre plusieurs destinations, comme dans pas mal de roguelite. Sauf que là, en gros, vous gérez une agence de voyage et vous allez devoir escorter des voyageurs. Et donc, un peu comme dans Overcooked, leur faire à manger, mais pas que cette fois-ci. Il va falloir les divertir, il va falloir piloter le vaisseau et éviter les astéroïdes quand on traverse des champs compliqués. Et si jamais les clients se plaignent, ils appellent l'inspecteur du travail. Et lui, l'inspecteur du travail, il rigole pas. Il rentre dans votre truc et il y a intérêt que tout soit carré, tout soit bien. Donc, un roguelite coopératif comme ça, qui a l'air super cool, qui est plutôt joli.
En fait, ça me fait penser à un espèce de croisement entre Overcooked et FTL.
Ouais,
parce
un peu,
que,
ouais.
Au début, tu vois la map un peu à la FTL où tu peux choisir les destinations, etc. Et t'as des moments où... par exemple, les champs d'astéroïdes dans FTL, là, ils ont fait... alors que dans FTL, tu sais, tu prends les dégâts et tu dois gérer le fait qu'il y a des astéroïdes qui t'arrivent dessus. Là, c'est la même idée, sauf que tu vas devoir... c'est un mini-jeu pour éviter les astéroïdes et tout, quoi. Donc, vraiment une bonne idée, je trouve.
Ouais.
Pour le coup.
Franchement, ce jeu-là a l'air très, très sympa. Mais je vous en reparlerai, je vais sûrement le tester, moi. Prochaine soirée canapé.
Et c'est quel éditeur, celui-là?
Je sais pas du tout.
Moi, le trailer me fait délirer parce que c'est totalement.
Ah oui,
con,
non, mais le trailer. Alors,
tout.
Ouais, franchement, matez-le pour le trailer déjà parce que c'est tourné comme une pub pour une agence de voyage. Et il y a des vrais acteurs dedans. Pour le coup, il y a une actrice qui joue l'hôtesse de l'air. Et
avec
franchement.
Des costumes, mon gars.
Oh ouais. Il y a un côté, franchement, ultra. Et ça a l'air, voilà, donc ça a l'air ultra sympa.
Ça a l'air original.
Ouais, franchement, il a l'air ultra cool comme jeu.
D'accord, ok. Et là, c'est My Lovely Wife.
Ouais, My Lovely Wife. Alors là, on est sur un jeu, My Lovely Wife. Donc, on est sur un jeu de gestion qui se veut un peu dérangeant. Donc, on va incarner Jake, un veuf, donc qui est tout triste, parce que du coup, sa femme est décédée. Mais il y a un homme mystérieux qui va lui donner le pouvoir d'invoquer des succubes. Et en fait, il va lui dire, tu vas pouvoir ressusciter ton épouse à condition de sacrifier, enfin d'invoquer des succubes, de les faire travailler, de les faire tomber amoureuses de toi et ensuite de les sacrifier pour créer un réceptacle pour l'âme de sa femme. Donc, c'est un jeu qui a l'air un petit peu... qui a envie de vous faire questionner votre morale et qui vous raconte une histoire, le tout dans des graphismes très comics. Il a une DA bien à lui.
Ouais, il y a un petit côté manga aussi, je
ouais,
trouve.
Ouais, manga,
dans
ouais, t'as raison. Ouais.
Des succubes, enfin...
Ouais, ouais, c'est vrai.
Après, à voir, mais il faut que ce soit bien écrit, quoi.
Alors,
sinon,
le truc...
ça marche pas.
Ouais, j'avais joué à leur précédent jeu, moi, que c'était My Lovely Daughter, où c'était à peu près pareil, sauf que là, tu devais ressusciter ta fille. Et ça avait pas vraiment fonctionné. Je trouvais le concept un peu bancal. Donc, bah là, à voir sur leur nouveau jeu, parce qu'ils ont quand même mis 4 ans entre les deux jeux. Donc.
Et puis, à voir aussi ce que tu peux. Est-ce que tu peux, par exemple, décider de prendre une route totalement différente et. Du coup, ne pas sacrifier.
Non, je pense que tu peux. Bah, dans le premier, tu pouvais pas.
D'accord.
Mais en fait, après, il y a un scénar aussi. Hein. Donc, le jeu, c'est un jeu de gestion, mais en réalité, il y a un scénar. Donc, c'est gestion narrative. Et bon, je vais pas spoiler, mais bon. La fin du 1 était plutôt cool.
Ok.
Donc, à voir.
D'accord. Bah, si tu le retestes, tu pourras peut-être nous en parler un peu plus.
Ouais, c'est pour ça, c'est pas impossible que je le tente.
Ok. Et alors là, ça va être le tyran qui va nous parler de Symphony of War. C'est bien ça ?
Oui, alors j'ai rajouté mon jeu cette semaine.
Ah, celui-là, je ne l'ai pas vu sortir en plus, c'était une surprise drop.
Ah bah, pour le coup, celui-là, il est arrivé direct dans mon fil de jeux sortis. Steam a très bien identifié le genre de jeu qui me plaît. Donc, Symphony of War, qu'est-ce que c'est ? Pour le coup, c'est un jeu qui mêle du Fire Emblem dans la partie, tu sais, de navigation sur la carte. Et des combats à la Ogre Battle, dans le sens où, tu sais, Fire Emblem, tu contrôles chaque unité, c'est une personne en fait, tu vois.
Ouais.
Et alors, tu peux avoir des. En fait, t'as un seul type d'unité, tu vois, c'est-à-dire si tu prends des cavaliers, c'est des cavaliers, etc. Ogre Battle, c'est différent. Ogre Battle, tu peux composer des escouades en fait avec différents types d'unités. Tu peux mettre par exemple des lanciers avec un soigneur derrière et un commandant au milieu, etc. En fait, tu peux faire un mix d'unités, si tu veux, pour faire des batailles. Et c'est ça qui fait toute la subtilité du jeu, c'est-à-dire qu'il va falloir évaluer, examiner les unités qu'il y a en face, dans chaque groupe d'unités, et choisir les match-ups qui t'intéressent le plus, quoi, en fait.
Ouais, c'est...
Et du coup, c'est pas juste « Oui, donc moi j'ai un chevalier, et toi t'as un cavalier. Du coup, le chevalier, il se fait défoncer par le cavalier. » Non, ça marche pas comme ça, voilà. C'est un peu plus subtil que ça. Voilà. Donc, pour le coup, moi, c'est un jeu qui m'attire très fortement parce que, déjà, le pixel art est super stylé.
Ouais.
Franchement, quand tu as les unités pendant les batailles, elles sont super détaillées.
Ouais, c'est joli, franchement. Hein.
Et même les backgrounds sont super beaux, etc.
Ouais, c'est même pas 16 bits, à mon avis, c'est plus ça.
Et puis, d'une manière générale, les passages dans les villages et tout, bon, ça fait très jeu 16 bits pour le coup dans ces cas-là. D'une manière générale, les passages sur la carte, Ouais, et dans les villages, NES, ouais. Ça, pour le coup, ça fait vraiment Super NES, quoi, ouais, en termes de rendu. Par contre, dès que tu passes dans les combats ou que tu as les séquences de bataille et tout, ouais, directement, là, tu sens que les sprites, ils sont... c'est du gros sprite qui tâche, ouais. Quoi.
Là, la Super NES, elle aurait pleuré, je pense.
Donc, c'est un jeu qui a l'air super stylé. Il y a des avis très positifs sur Steam. Pour le moment, il a 91% d'avis positifs sur 200 personnes.
Quand même, hein. Donc c'est même un petit succès. Enfin.
Et puis, honnêtement, je ne serais pas sur Project Triangle la stratégie. Je l'aurais acheté direct, et même là, je me demande si je ne vais pas l'acheter. Tu vois. parce que je n'aurais pas le temps d'y jouer, clairement. Parce que là, j'ai Triangle Strategy, et j'ai même Fire Emblem Treehouses, qu'il faudrait que je fasse aussi.
Ouais, moi aussi.
Mais là, c'est clairement un jeu qui me fait envie. Alors, il n'a pas... comment dire... pour le coup, c'est un mix que je trouve intéressant en plus, c'est-à-dire qu'il fait pas non plus du 100% Fire Emblem, il prend du Tactics Ogre, du Fire Emblem, il rajoute un système de morale aussi qui est assez intéressant, c'est-à-dire que si pendant une bataille par exemple, t'as, je sais pas moi, trois archers avec un guerrier et une soigneuse derrière, si tu tues les archers et le guerrier, la soigneuse va se rendre. Parce que t'as toutes les unités combattantes qui pouvaient défendre qui ont sauté, et du coup la jauge de morale elle va descendre à zéro et les unités se rendent. Donc il y a vraiment des subtilités de gameplay et tout ça, donc moi le jeu, je suis plutôt convaincu. Et pour information, j'ai fait exprès de pas le dire au début pour garder la surprise, c'est un jeu qui a été fait avec RPG Maker.
Et ben lourd.
Ah.
Parce que ça se voit pas, je trouve.
Ouais. Ça comme a bien quoi, progressé RPG Maker, hein, c'est ouf.
Ouais.
Parce que même les animations, elles sont pas mal. Hein.
Après, RPG Maker, il y a moyen de faire des trucs, mais il faut se casser la tête. Après, moi, tu sais, pendant ma jeunesse, j'ai eu des projets RPG Maker, j'ai jamais rien sorti. Hein. C'est des trucs que je...
Ouais, mais t'as un peu tes logiciels, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Moi, c'était RPG Maker 2000, hein, donc c'est pour vous dire.
Ça date.
C'est un logiciel, en fait, avec lequel il y a moyen de faire des choses. C'est juste que tu vas falloir se casser la tête, quoi. Pour faire des trucs avancés, il va falloir détourner le logiciel pour faire des trucs qu'il n'y avait pas prévu de faire. Donc, du coup, je ne sais pas si depuis, ils ont étendu, tu sais, le panel de possibilités et la flexibilité du truc. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, ça m'impressionne, parce que moi, quand j'ai vu, tu m'aurais dit c'est fait avec Unity, je t'aurais dit ouais, d'accord, ok.
Ouais, c'est clair. Bah, RPG Maker, je connais pas énormément, mais je sais que c'est très suivi, très actif dans la communauté. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'est maintenu, que c'est mis à jour et tout. Hein. Ça m'étonnerait pas que entre celui que t'as tenté et celui d'aujourd'hui, il y a un monde.
Donc, franchement, moi, c'est la très bonne surprise de cette semaine. Je l'ai vu, j'ai fait, putain, ça a l'air trop bien. Et puis, voir autant d'avis positifs, et surtout, tu vois les commentaires, c'est des gens... Même les avis négatifs, tu vois, c'est des commentaires constructifs, en fait. C'est vrai qu'il y a des problèmes... J'ai regardé pas mal de vidéos de gameplay du jeu qui sont assez longues, et tu vois quand même que sur l'interface, il y a des trucs un peu lourds, par exemple. Mais pour moi, rien de rédhibitoire dans le sens où, bon, étant habitué des jeux japonais, on va dire, les interfaces parfois totalement contre-intuitives, c'est clair, malheureusement ouais, pas exclusif ouais. À ce jeu-là, voilà.
Ouais, c'est
ça. Voilà, donc peut-être un jour je vous en reparlerai, mais pas longtemps, je pense, parce que là, niveau jeu tactique, j'ai de quoi faire en ce moment.
Ouais, il y a à boire et à manger. Moi, ouais.
C'est ça.
D'accord, bah là tu vas nous parler de Signalis.
Alors là, on a juste fini les jeux qui sont sortis cette semaine, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, on passe dans la séquence annonce,
trailer,
dans
annonce.
Un peu toutes les conférences. Voilà. Ouais. On va pas faire le déroulé de chaque conférence. Nous, on s'en fout. On ouais. est là pour parler du manière générale des jeux qui nous ont tapé dans l'œil. Et donc, on va commencer par Signalis, dont on avait déjà parlé ici. Hein, Signalis, je le rappelle.
Attends, il y a Kinaïs qui nous demande c'était quoi le nom du jeu d'avant. Tu parles de quoi? Symphony of War.
Symphony of War.
Ouais. Celui d'encore avant, c'est My Lovely Wife.
Voilà. Donc, Signalis qui a le droit à un trailer parce qu'il va sortir, en fait. Et j'ai pas regardé la date de sortie, donc j'ai l'air complètement con. Messieurs, est-ce que
le
vous pouvez regarder
octobre.
Sur Google Lock? Combien?
27 octobre.
Le 25 octobre, voilà. Donc, Signalis, je le rappelle, c'est un jeu hommage au Resident Evil, mais même du manière générale au jeu d'horreur de la PlayStation, ouais. Parce que Parasite Eve aussi avait ce style de graphisme, etc. Tu sens que c'est un jeu voilà, qui est amoureux des jeux d'horreur de cette époque-là et qui cherche à émuler l'expérience d'un jeu d'horreur sur PlayStation en ayant une esthétique de jeu PlayStation, mais en faisant des trucs qui n'auraient... En tout cas, difficilement tourné sur une PlayStation.
Oui, voilà, c'est ça.
Il y a des effets de lumière, on va dire. Je doute que la PlayStation, elle aurait apprécié.
Même des, les caméras dans les environnements clos, la PlayStation, c'était compliqué.
Ouais. Donc, bon, après, il y avait des gens caméra fixe, hein, parce que là, c'est des caméras fixes hein, quand même qu'ils ont fait.
C'est des caméras fixes.
Ah oui, c'est des caméras fixes. Hein. Si tu regardes, c'est un angle qui est fixe à chaque fois. Hein. Pour le coup,
oui, c'est vrai,
ils
c'est
ont.
Vrai.
Ils ont respecté les codes de Resident Evil, hein. Donc là-dessus. Mais par contre, ils font des effets de lumière que tu n'aurais pas eu sur un jeu PlayStation, ouais. Etc. Quoi.
Mais le style est respecté quoi, au niveau du. Ouais.
On est dans un jeu cyberpunk, je précise.
Ouais, ambiance très sombre.
En cyberpunk, dark, gore, avec des zombies à moitié mécanisés et tout, ça se déroule. T'as des parties dans l'espace, visiblement, parce que là je vois qu'il y a un cockpit aussi dans l'espace. Bref, moi c'est tout ce que j'aime. Il y a vraiment une ambiance que je trouve assez dingue. Et donc, 17 octobre, je serai présent. Ambiance style.
T'avais pas.
Il y a un petit côté Parasite Eve dans le car design, je trouve aussi. Donc,
t'as dit 17, mais je crois que c'était 27.
Ouais, c'est 27.
Que t'as écrit.
27 octobre. 27, ouais. 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 C'est 27 octobre, effectivement. Ouais. Et ça sort sur tous les supports de la création. Donc,
même la Switch.
Plaisir.
Ouais.
Donc, espérons que ce soit cool. Hein. Faut que l'histoire soit cool, quoi.
Ah, ouais. Ah, oui, PS4, mais il n'y a pas marqué PS5. Mais on s'en fout, PS5. Oui, si ça tourne sur une PS4, ça tourne sur une PS5. Hein.
Alors, voilà. Pour le prochain, ça serait Tinykin, c'est ça non comme ça que tu
alors,
le prononces
Tinykin. Tiny, petit, kin. Enfin, voilà, kin. Tinykin, c'est un projet, je crois, dont on avait déjà parlé ici. C'est fait par des anciens de Ubisoft Montpellier, en fait. Et c'est tout simplement un espèce de Pikmin en 3D avec des phases de plateforme où tu vas manipuler des bestioles qui ont chacune des caractéristiques. Par exemple, il y en a qui explosent, il y en a que tu peux empiler pour faire une échelle. Enfin, voilà. Tu as toutes sortes de bestioles, des espèces de Pikmin, en fait, que tu vas pouvoir manipuler. Et tu vas te balader, en fait, dans...
Dans une maison, on dirait, les décors.
Dans une maison, oui, c'est ça. Bah, un peu style Toy Commander, tu vois.
Ouais,
c'est-à-dire
carrément.
Que,
t'es à échelle de jouets d'enfant, quoi, on va dire.
Voilà, t'es à échelle de jouets d'enfant. Et tu vas devoir résoudre des puzzles, etc. Tu vas rencontrer des...
Il y a un rendu dessin
des
animé sur les persos.
Avec qui tu vas pouvoir discuter et tout. Enfin, c'est un jeu d'aventure, plateforme, avec ouais. Gameplay à Pikmin, quoi, en fait. Et le jeu est juste... Enfin, c'est juste magnifique. Quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez pour le coup,
c'est
mais
c'est super beau. Il y a un rendu dessin
non,
animé qui déchire. Ouais,
la DA, elle est géniale. Le petit côté cartoon et tout, franchement, ouais. Ouais, ça tue.
En fait, c'est un espèce de rendu. Les décors sont en 3D, le poly avec un rendu à la Paper Mario pour les personnages, en fait.
C'est ça.
D'accord. Ok.
Et c'est
comme
juste
des feuilles de papier,
wow,
quoi.
Qui...
Ouais. Mm. Ouais. Ouais, le jeu il est.
Et le mix des deux est pas choquant, ça va.
Oui, ça
donc j'avais vu pas mal de parce que pour le coup il y a je crois qu'en ce moment il y a une démo il y avait déjà une démo franchement ça avait l'air propre quoi. Enfin, c'est des anciens du Ubi Montpellier ils savent ce qu'ils font quoi. Donc,
autant tu vois
ça arrive
ouais autant les Pikmin ça me parle pas autant ça peut me parler
ouais
parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai côté plateforme tu vois en plus
le 30 octobre et pareil là ça sort un peu partout donc
le 30 août
faites
le 30
plaisir
août. Donc ça arrive assez vite
août.
Hein.
Ah, j'ai
ouais c'est 30 août ouais.
Ouh là là
d'accord
fatigué
vous inquiétez pas je, sur les dates
ah,
je veille
j'ai dit 30 octobre aussi hein. J'ai auguste mais j'ai pas compris le... voilà
30 août
ok on parle de Alalot.
Alors Alalot, là c'est un projet que moi je suis depuis un moment. En fait, c'est un espèce d'action RPG en vue du dessus avec des graphismes un peu à la Baldur's Gate. Et ce jeu, je l'attends juste parce que, regardez, quoi, j'ai envie de dire.
Ouais, il est beau.
C'est-à-dire que t'as des décors qui sont super stylés. Enfin, moi, je le dis depuis toujours, hein, la 3D isométrique avec des décors fixes en 3D, tu vois.
Ouais, c'est beau.
Bah, ça donne des trucs qui sont impérissables ouais. longtemps. Quoi. Enfin,
ça fait comme maquette.
Baldur's Gate aujourd'hui, je le trouve encore beau, tu vois. Alors, si tu fais Baldur's Gate aujourd'hui avec des décors en HD, tu vois, bah, le jeu, c'est un jeu qui va super bien vieillir et surtout qui a un rendu qui est magnifique, quoi.
C'est clair.
Donc, alors, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que comme c'est une caméra en vue isométrique,
les combats ont l'air brouillons de loin.
Et que c'est surtout, et c'est un jeu d'action, tu vois. La question que je me pose, c'est la précision, tu vois, des coups, comment ça va se jouer. Donc, j'attends de voir. Mais pour le coup, en termes d'esthétique, c'est quelque chose que j'attends beaucoup. D'autant plus que ça va sortir en accès anticipé le 30 juin. Ça fait un moment qu'on l'attend. On en avait. Encore une fois, ça, c'est un jeu dont on avait parlé ici. Il était un peu passé sous les radars bah, parce que les développeurs, ils ont besoin de temps hein, pour faire leur jeu. Donc, c'est un jeu que j'attends de pied ferme. Juste la partie combat qui me pose question. Mais pour le reste, l'univers, écoute, je suis déjà conquis.
D'accord. Ok, on passe au jeu suivant qui est Cassette Beast.
Alors là, Cassette. La cassette. Imaginez un peu. Vous prenez Pokémon. En tout cas, les décors de Pokémon. Tu sais, un peu le rendu Pokémon. Où t'as des décors un peu carrés, tu sais, etc. En 3D. Et tu mets dedans des Digimon, en fait. C'est totalement ça. Hein. C'est-à-dire que par le pouvoir de la cassette, les gens vont se transformer en Digimon, en fait. Et derrière, ça va donner des bestioles super cheloues, super marrantes, dans un monde ouvert où tu vas aller combattre d'autres dresseurs, entre guillemets. Donc, après, à voir ce qu'ils vont proposer sur le fond du gameplay. Mais en tout cas, en termes de direction artistique, alors c'est...
du très beau pixel art, hein.
C'est du pixel art, mais tu sais, c'est limite de la HD 2D,
ouais,
en fait.
Ouais, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre.
Et pour le coup, en fait, t'as des persos en pixel art avec un rendu HD 2D dans des décors 3D.
Autant les combats, c'est vu de côté, c'est classique.
Ouais. Autant, voilà. Enfin, c'est
tu
un jeu qui
les
a.
Les combats
une...
vus de côté, les combats, vous serez pas dépaysés, c'est du pixel art vu de côté. Mais il y a une espèce de profondeur dans l'exploration de la map, c'est. On
et
dirait du Zelda,
peut-être...
mais avec une vraie, un vrai relief.
Bah, moi, je trouve que vraiment, c'est les décors de Pokémon, hein, pour le coup. Hein. Tu prends les Pokémon première génération, tu les fous en 3D, je suis sûr qu'ils ont ce rendu-là, quoi, tu vois. En tout cas, dans un style similaire, tu vois.
Et c'est le même principe. Tu les
alors,
trouves
oui,
pour les faire
sauf que
se
là,
combattre.
En plus, hein. T'as un système de fusion, etc. Alors après, le truc, c'est qu'on n'a pas le détail du jeu, parce que ce qui fait l'intérêt et la richesse des Pokémon, c'est toutes les activités liées à la capture de Pokémon, au fait de quêtes annexes, ou ce genre de choses. Là, il faut voir ce qu'ils vont mettre dans le jeu, en fait. Concrètement, en tout cas, sur la base, c'est bien. Ils ont un super univers. T'as un système de fusion un peu à la Persona. T'as des bestioles, pour le coup, qui ressemblent pas à des Pokémon. Hein. C'est vraiment plus Digimon dans le style, je trouve. Et voilà, enfin, t'as un jeu qui a une identité propre, qui sortira un peu partout aussi, apparemment.
Ouais.
Pas de date pour le moment, mais on attend ça de pied ferme.
Mais c'est vrai que les monstres ont beaucoup de charisme. Les monstres sont vraiment originaux.
Ce qui est cool... Ce soir, c'est surtout que la plupart des jeux que vous avez présentés, ils sortent quasiment sur tous les supports. Quoi.
Alors, ça, attends de voir après, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns qui
ouais, on va
ne sortent
pleurer.
Pas partout.
Ouais.
Hein.
Mais okay. En tout cas, ouais, là, c'est très très beau.
Mais d'une manière générale, vous le verrez, sur les jeux qui sortent ce soir, je trouve que c'est tous des jeux qui ont une identité visuelle. Tu vois enfin, qui ont un truc qui fait que
plus
tu
on
vois
avance
le
dans
jeu,
la liste,
tu dis...
Et... Ah ouais, plus on avance dans la liste, et plus ça va s'accentuer. Oh là là.
Du coup, on parle de River Tales.
Alors, River Tales. Là, pour le coup, moi, c'est un jeu que j'attends beaucoup parce que c'est un jeu coop. C'est-à-dire que c'est un jeu avec un chat et un poisson.
C'est super beau encore. C'est de la alors, 3D, là, c'est du cel shading ou pas? Je vois pas trop dit.
C'est la 3D low poly en fait, hein, tout simplement.
Ok, c'est super beau.
Oh, c'est la 3D low poly.
Le monstre là, il a trop de la gueule. C'est super original.
Mais avec un style un peu cartoon, tu vois.
Ah ouais, carrément, ouais.
Et pour le coup, c'est un jeu coop où vous allez jouer un chat et un poisson. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va jouer le poisson, il y a une personne qui va jouer le chat. Et évidemment, toute la partie coop va naître des interactions entre ces deux-là. C'est-à-dire que le poisson, lui, il va pouvoir par exemple faire popper des nénuphars. Alors, me demandez pas comment. Hein, voilà.
Pouvoir magique des
mais
poissons.
En gros, il va pouvoir faire popper des plateformes sur lesquelles le chat va pouvoir sauter pour faire des plateformes, en fait. La seule question que je me pose, c'est que dans le gameplay qu'on voit, si tu veux, j'ai l'impression que la partie plateforme, c'est essentiellement le chat, tu vois. Et j'ai un peu peur que le poisson, il se fasse un peu chier, en fait.
Après, ça peut être bien pour deux joueurs qui ont des niveaux différents de skill, peut-être.
Cela dit, après, avoir la responsabilité de tenir la vie de ton pote entre les mains... Ça peut t'accaparer dans l'attention, tu vois, hein, quand même. Hein.
Ouais, c'est pour ça, hein, à mon avis. Ça a l'air bien cool, en tout cas. En plus, c'est assez rare, les compositions asymétriques.
Ouais, la DA, elle est vraiment super.
Hein. Ouais, la DA, c'est très joli. Il y a un vrai feeling de dessin animé, les personnages ont du caractère, vraiment, tu le vois dans le regard, ils ont des émotions qui passent dans le sourire et tout, les expressions faciales. C'est très, très travaillé.
Ouais, même du même général, l'animation, franchement, ouais, les personnages sont très détaillés. Enfin, tu sens qu'il y a un vrai travail derrière. Et en plus, bon, c'est du jeu coop. Et là, c'est vendu. Là, c'est bon. Mordren j'ai un jeu à te faire acheter, Mordren.
Il va jouer le chat ou le poisson?
Ah, bah là, ça sera à lui de voir. Hein. Moi, je me tiens à la disposition.
Si Mordren, il te laisse le choix, tu peux pas refuser. Hein.
Donc pour information il n'y a pas de date pour le moment, ça sort sur à peu près tous les supports. Donc et c'était un projet qui avait été financé sur Kickstarter, je crois. Donc des fois il y a des trucs comme ça qui sortent de Kickstarter.
Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas prononcé ce mot d'ailleurs.
Et qui font bien plaisir.
Ouais. Ok, bah on passe à Frogtail.
Alors Frogtail, là c'est un des jeux qui m'a tapé dans l'œil, très clairement. Pour le coup, on est dans un RPG mix jeu de rythme, c'est-à-dire que en gros c'est un jeu où tu vas jouer une grenouille, hein, c'est un jeu en 2D vu du dessus, classique, hein, avec des combats en tour par tour, sauf que petite subtilité, pendant les combats, tu vas avoir des phases de jeu de rythme quand tu vas donner des coups, en fait. C'est-à-dire que t'as une mélodie qui va s'enclencher et il va falloir taper au bon moment avec le bouton qui t'est indiqué à l'écran pour pouvoir frapper les ennemis, quoi. Alors, c'est un petit twist, mais honnêtement, à part ça, le jeu a pas l'air de révolutionner les gens, on va dire.
C'est quand même du pixel art magnifique.
Et surtout, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que le jeu, il a des animations de dingo.
Ouais, ouais, c'est super beau.
Le pixel art est super détaillé. Ouais, enfin, ouais, c'est le genre de pixel art que j'aime, tu vois. C'est-à-dire que t'as l'esthétique du pixel art, mais en même temps, t'as des détails que jamais t'aurais vu ailleurs, tu vois. Et puis même, comme tu joues des grenouilles, etc., du coup, tu te retrouves dans des environnements un peu féeriques, un peu originaux
c'est
aussi.
Trop
enfin,
beau.
D'une manière générale,
Link to the Past, un petit peu.
Ouais, un peu, ouais. Et d'une manière générale, c'est pour le coup, c'est un jeu où t'as que des bestioles en fait. Tu vois, c'est pas un jeu où tu vas avoir des humains, des machins.
C'est vrai.
Donc le jeu a une identité. Ouais. Tu regardes les persos, regarde la petite chose sur elle, son petit neurose là. Enfin, j'adore.
Les citrouilles.
Le petit chat.
Les citrouilles, excellent. Ouais.
Enfin,
le chat capitaine de bateau. Ouais, le jeu a l'air de.
Le jeu a une esthétique de dingue. Les animations, les sprites sont énormes. Là, vous voyez justement la face jeu de Dream dont on parlait, où que ce soit pour la défense ou pour l'attaque,
ouais,
il faut appuyer au bon moment sur les boutons, etc.
Ouais,
et même
Mario et Luigi,
ça,
ouais,
quoi, c'est...
Oui, les Mario
c'est
et Luigi.
Dingue.
Ouais.
Moi j'ai envie d'aller dans cet univers, tu vois. Enfin, c'est je suis un gamin en fait. Pour moi,
c'est aussi,
rare, hein. Les jeux, tu vois, qui tu vois le jeu, tu dis, mais
j'ai envie de jouer.
Je suis un gosse là, ouais,
j'espère
j'ai trop envie de jouer.
Ouais. J'espère que l'histoire est originale, qu'il est bien écrit.
Ouais,
franchement. Et sinon, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration peut-être à trouver chez à chercher chez, tu sais, les Mario et Luigi de la Game Boy Advance.
Ouais, ouais. Alors, surtout le système de combat, là.
Alors, c'est pas juste un hasard, hein. C'est marqué sur leur Kickstarter, en fait. Hein.
Ah bah voilà,
d'accord.
Ah
bah, okay.
Mario et Luigi, c'est
Et avec un peu Link to the Past aussi, dans, tu vois, le l'inspiration des décors et des maps.
Alors,
que tu
eux, leur inspiration, c'est Mario Luigi, Superstar Saga, Tales of Symphonia et Kingdom Hearts. Voilà.
Bah, les deux derniers,
ça, c'est
les
inspirations
pas,
dont ils se revendiquent.
Ok, d'accord. Ok. Ouais, ils savent mieux que nous. Hein.
D'accord. Oui, sûrement.
Et je précise que pour le coup, ça c'est un jeu qui est financé sur Kickstarter. Ils ont eu droit, tu sais, à un headlight durant les conférences. Donc moi, comme d'habitude, hein, je vous en ai pas parlé pour que vous ayez dépensé de l'argent, etc. Je vous en ai parlé pour que vous le surveillez de l'œil. Et d'une manière générale, ça, si je pouvais juste ajouter un petit truc, les jeux indépendants dont on parle ici, de temps en temps, s'il y a des choses qui vous plaisent dedans, n'hésitez pas, par exemple, à aller les suivre sur Steam. Vous voyez, parce que ça compte beaucoup pour les studios indépendants, en fait. C'est un geste qui ne demande pas grand-chose, et c'est surtout un truc qui permet, tu sais, par exemple, quand tu vas discuter avec un éditeur derrière, c'est des chiffres qui jouent, tu vois, quand tu vas discuter avec un éditeur.
Pour le mettre en avant, pour se faire
financer. Voilà, pour dire que voilà, c'est un jeu qui est suivi, etc. Donc n'hésitez pas à suivre les jeux qui vous intéressent. Ouais. Moi, c'est essentiellement pour ça que je vous en parle, en fait. Hein.
Et c'est aussi à les mettre dans la liste de souhaits quand c'est possible. C'est
exactement, ouais. Voilà.
Il y a les deux façons, vous pouvez suivre aussi, ajouter dans la liste de souhaits, c'est aussi... D'ailleurs, pour ça que voilà. Souvent, à la fin des trailers indés, ils mettent « please wishlist » parce que...
Ouais, c'est
important. C'est important pour eux.
Et même pour la mise en avant sur Steam, c'est important, tu vois, parce que Steam, c'est avec ça aussi derrière, qui fait les mises en avant sur le store, qui dit... Parce que tu sais, t'as l'algorithme derrière. Si moi, par exemple, je vous ai parlé de Symphony of... comment il s'appelle le jeu déjà ? Symphony of War, tout à l'heure... C'est parce que Steam a identifié les jeux que j'aime bien, tu vois, et derrière, il voit les jeux qui sont recommandés par les gens qui aiment ce style de jeu, et du coup, il le met en avant sur mon store, tu vois. Et c'est quelque chose qui est assez important pour les indépendants, derrière, parce que quand ils font une sortie, pour pas être noyés dans la masse, pour un peu surnager et que le jeu apparaisse dans la liste d'autres personnes qui connaissent pas le jeu, tu vois. Ben, c'est important qu'il y ait eu ce travail-là au préalable. Quoi. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Quand même, c'est rare d'avoir ce genre de jeu-là. Enfin, franchement, tu sens qu'il y a un travail derrière qui... Enfin, tu peux pas nier que les gars, si tu veux, ils aiment leur projet.
Ils ont une proposition.
Tu vois ça.
Oui, ouais, ils ont une proposition,
ça.
Déjà.
C'est ça. Exactement.
Ok. Alors, on passe au jeu suivant.
Alors,
qui
juste
est...
pas oui, de date. Attends. Et pour le moment, ils ont prévu de le sortir sur PC. Évidemment, et peut-être, si ça marche, le sortir sur Switch.
Ouais, c'est souvent le pattern.
Sur Switch, ça serait l'idéal. Ouais, c'est serait la console ouais. Pour
s'il fonctionne sur PC, il sortira sur
Switch. Ce pixel art là sur Switch, moi je...
Ouais, je prends tout de suite.
Donnez-moi quoi. <c'est... rire>
Ah ouais. Alors, on parle de Bilking Folly.
Alors, Bilking Folly, ça c'est mon petit chouchou, mon petit coup de cœur. Alors, Bilking Folly, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'aventure avec des dialogues et des puzzles où vous allez faire des chasses de trésors, résoudre des puzzles, etc.
Ah, Athéa, je vais trouver ça moche.
Et moi, je trouve qu'il y a un petit côté Monkey Island. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, carrément.
Tu sais,
un
la
côté île au trésor, même. Hein.
Ouais, non, mais la manière qu'a le perso de se tourner vers la caméra, en fait. De regarder
oui,
le joueur
ça,
pour balancer un truc,
oh, le chien, trop
puis,
cool.
Puis de repartir dans l'autre sens. Enfin, il y a toute une esthétique en plus, je trouve, qui me fait penser à Monkey Island, quoi, en fait. Alors, je dis pas que le jeu va avoir l'écriture d'un Monkey Island, etc. Hein. Ce que je dis, c'est que il y a un petit truc, pas juste le fait que ce soit des pirates, tu vois, dans la manière dont c'est mis en scène, etc., qui me fait penser à Monkey Island, et d'une manière générale, dont je précise, c'est un vu en vue du dessus, en pixel art, et là, pareil, c'est aussi un jeu qui a une identité, quoi. C'est ce héros avec ce nez rouge qui a l'air d'un total loser, moi, ça me parle, tu vois.
Ouais, non, moi aussi, c'est
fois,
un appel
un
à l'aventure.
Voilà, c'est ça.
Puis le côté aussi, j'ai vu à un moment donné, tu contrôles une espèce de règle sur une carte en papier pour essayer de trouver où est le trésor et de... Je trouve ça oui. Trop stylé, c'est pas
en
une mécanique...
des indications qu'on t'a données, il faut que tu détermines les coordonnées, etc.
Et ça, c'est vraiment un petit côté roman d'aventure, tu sais, quand t'es petit, qu'on te fait lire et tout, c'est...
Ah, moi, le feeling de trésor, c'était un mes bouquins de chevet quand j'étais gamin. Hein, donc,
Bah, c'est ça, ouais, j'ai l'impression que là, c'est plutôt bien réussi.
Donc, bon, voilà. Et puis, d'une manière générale, moi, j'aime bien les jeux avec les héros qui sont des random losers. Enfin, c'est pour ça que j'aime Guybrush Threepwood. C'est pour ça que j'aime le héros dans Kingdom Come Deliverance qui est un pur loser. Un pull au loser né, tu vois. Enfin, c'est des héros qui te parlent, tu vois, en fait. Qui sont humains, quoi, en fait. Tout simplement.
Ça a l'air d'être une aventure à taille humaine aussi. T'as pas l'air d'être là pour sauver le monde ou je ne sais quoi.
Regarde, il est en train de caresser les gars.
Il caresse tout le monde, quoi.
Ouais, avec... caresse tes crabes,
même les poivres au bar.
Ouais, c'est un jeu avec beaucoup d'amour, moi, franchement.
Et encore une fois, bah voilà, regardez-moi ce pixel art. Quoi.
C'est vrai qu'il caresse les poivrons au bar. Mais il a une âme de ouf, ce jeu. Hein.
Ouais, il a une identité.
Ah ouais, il a une âme de malade.
Ok, d'accord. On donc, passe au jeu suivant, donc.
Alors, allez, attends, hein. Oui. Je sais pas si j'ai mis s'il y avait une date ou pas.
Je crois qu'il y a... Alors, sur le... Ah, si, de... Attends, non, c'est une vidéo
de
2021.
Il y a pas de date encore. Il y a pas de date encore. Non, non.
Donc, on va passer à American Arcadia.
Alors là, on est dans la grosse production, là. American Arcadia, c'est le dernier jeu de Raw Fury. Et ma foi, donc là, en gros, c'est le Truman Show en jeu vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, contrairement au Truman Show, là, je vous rappelle, hein, le Truman Show...
film excellent, Truman Show avec Jim Carrey.
Voilà, film mythique, ouais. Où tu as un Jim Carrey qui joue un personnage, en gros, qui
s'est fait acheter bébé par une chaîne de télé, qui ne sait pas qu'il vit dans une émission de télé-réalité, et en fait, il pense que c'est sa vraie vie, lui. Et exactement. Tout le monde le connaît, c'est la superstar des États-Unis, mais lui ne sait pas que sa vie est une émission de télé-réalité.
Alors là, il y a un petit twist, c'est pas une personne qui fait l'objet des attentions du public de la télévision, c'est toute une ville en fait. Sauf que toi, tu joues un personnage qui est parfaitement banal, en gros tu fais pas partie des tops, tu fais partie des figurants du film, tu vois. Enfin, t'es pas le personnage principal, en gros. Sauf que ce figurant-là, à un moment donné, il va se rendre compte de la réalité, quoi. Et derrière, tu as une espèce de hackeuse, en fait, qui va essayer de l'aider à s'enfuir. Parce que évidemment, lui, il va s'en rendre compte, mais derrière, il va vouloir se sortir de là.
Parce que toute la ville n'est pas au courant, c'est ça ? Enfin, personne dans la ville
n'est pas au courant. Okay. Personne dans la ville n'est au courant, exactement.
Okay, okay.
Et lui, il va vouloir s'enfuir, mais la production va lui mettre des bâtons dans les roues, ouais. Pour l'empêcher de s'échapper, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir une altération de deux points de vue, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir des phases de plateforme en vue de côté.
Ouais.
Un peu à la Limbo, enfin pas à Limbo, à la... Comment il s'appelait le dernier jeu là des créateurs de Limbo justement ?
Inside ?
Inside, voilà.
Ouais.
Un peu à la Inside, tu vois. En plus coloré quand même, vachement plus coloré.
Ouais, plus coloré, ouais. Mais c'est vrai
et
que ça ressemble beaucoup.
Et tu vas avoir une phase à la première personne où tu vas jouer la hackeuse qui va faire des phases, j'ai l'impression, de hacking et d'infiltration, où elle va devoir s'infiltrer dans des bureaux, etc. J'ai l'impression, pour accéder à des lieux de sécuriser, où elle va pouvoir désactiver des trucs, etc., pour aider le gars à s'en sortir, en fait. Et en quelque sorte, en fait, j'ai l'impression que tu es toujours du point de vue de la nana, la première personne, parce que la vue de côté, en fait, j'ai l'impression que c'est la vue de l'écran de surveillance qu'elle a où elle voit le gars s'enfuir.
Ah, ok, d'accord. Mais du coup, tu le contrôles, le gars, ou c'est une IA qui le contrôle ?
Mais tu vas le contrôler. Hein. T'as deux phases de gameplay distinctes.
D'accord.
Hein, tu vas le contrôler pendant les phases de plateforme, etc. Et tu vas contrôler la nana aussi quand elle va aller s'infiltrer dans les bureaux, etc. Quoi.
Ok.
Et d'une manière générale, je précise, donc c'est un jeu qui est en 3D. Vraiment très coloré pour le coup.
Et c'est un jeu solo, hein, du coup, ou c'est multi ?
C'est un jeu solo. C'est un jeu solo. Moi, je suis amoureux là. Enfin, c'est le concept, tu vois, rien que le concept, je trouve original.
Ah oui,
c'est-à-dire
carrément,
ce que ça raconte, l'idée de reprendre le Truman Show mais d'en faire un jeu vidéo. Et si on reprenait le Truman Show en jeu vidéo, comment on ferait pour que ça soit intéressant, tu vois ?
Ouais, carrément.
Moi, je trouve ça génial, quoi.
Ça a l'air vraiment très cool.
Ouais, c'est pas mal. Surtout qu'il y a les deux phases de jeux différentes. Oui, ça peut être. Intéressant.
Ouais, faut pas que ce soit répétitif ni rien, faut que ça se renouvelle, que ce soit bien écrit. Mais effectivement.
Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un jeu qui est long? Je pense pas. Hein. Je crois pas.
Bah, ça, on verra, on s'en fiche, hein, de toute façon. Bon, ouais. Comme d'habitude, ce qui est important dans les jeux, c'est pas.
Mais justement, moi j'ai bien aimé l'expérience avec Inside, c'est parce que c'était pas très long et l'expérience était vraiment dense.
Ouais,
quoi.
Moi aussi.
C'était
pareil.
Vraiment que du plaisir.
Ouais. Moi, je suis toujours de la team, il faut que ce soit la longueur qu'il faut. Et puis c'est tout.
Oui, oui.
C'est-à-dire que si tu fais un jeu trop long, ça sert à rien en fait. Enfin,
ouais, c'est clair, hein.
Ça sert à quoi d'étaler la confiture pour ne rien faire, quoi.
Non, je suis anti-remplissage moi aussi.
Ouais,
il y a tellement de jeux à jouer, faut pas me faire perdre mon temps.
Bah, je veux dire, regarde Assassin's Creed Valhalla, ATH pourra témoigner. C'était pas, voilà, c'était pas extraordinaire, quoi. C'est
ouais,
c'est il y a des jeux
quoi,
comme ça qui ne savent pas s'arrêter en fait. Hein. C'est, malheureusement.
Tu m'étonnes.
Ok, on parle de The Entropy Center, enfin centre.
The Entropy Center, oui, c'est
ouais,
ça.
Center.
Donc, The Entropy Center, c'est quoi? Bah, c'est Portal, en fait. Enfin, je suis désolé, mais quand je vois le jeu tourner... Donc, The Entropy Center, c'est Portal, sauf qu'au lieu de contrôler un Portal Gun, tu contrôles un gun qui contrôle le temps, en fait. Et là, vous le voyez direct, dès l'intro de la cinématique, c'est-à-dire que t'as un espèce de pont qui est effondré, et le gars utilise, enfin la personne utilise son gun pour remonter le pont dans le temps en fait et le reconstituer avant qu'il s'écroule quoi. Et du
mais
coup,
mais ce qui est ouf, c'est
et...
qu'il y a un smiley en plus sur ton arme qui s'affiche en fait que tu vois toi en tant que joueur et qui a l'air de faire des mimiques et tout, c'est incroyable.
Et le smiley en fait, c'est l'IA du, c'est un peu le GLaDOS du jeu en fait.
D'accord.
De la même façon que tu sais dans Portal 2, t'avais GLaDOS en patate qui. qui te faisait des vannes tout le long du jeu, bah là c'est pareil, t'as la GLaDOS du jeu qui va venir te raconter des trucs.
Et donc il fout ta gueule et tout.
Alors oui potentiellement, mais après il faut voir l'écriture, c'est beaucoup trop court pour se faire un avis.
Ouais.
Mais oui, clairement là, ils ont repris l'idée parce que effectivement, sinon ça fait un jeu un peu solitaire et pour la narration c'est quand même très pratique.
Bah oui.
De pas avoir un protagoniste 100% solitaire et puis même ça permet d'avoir quelque chose avec une identité et tout. L'IA qui fait ses mimiques, etc. C'est cool quoi. Donc moi je suis curieux de voir ce que ça va donner. Il faut voir à quel point ils exploitent l'idée parce que bon, malheureusement dans le trailer ils montrent aussi des puzzles où franchement, la partie temporelle du gun, tu la vois pas trop. Notamment, tu sais, là où il déplace des blocs, etc.
Ouais,
je suis curieux de voir l'inventivité qu'il va y avoir en termes de puzzle. Alors, je précise, le jeu, c'est un univers où t'es en train de vivre l'apocalypse, en fait. Hein, parce que très clairement, au début, la planète que tu vois en feu, c'est la Terre. Hein.
Ils sont cringe, les robots.
Donc, curieux de voir ça. Je leur souhaite
bonne
chance
aussi, celui-là.
Parce que quand tu t'attaques à un truc comme Portal, voilà. Enfin, c'est un monument à quel tu t'attaques.
Bah oui,
là, tu vois,
ouais,
on va te comparer direct à Valve. Faut avoir les balls de se lancer, quoi. Ouais. Donc, quand même.
Et
mais
tu
en
penses
tout cas...
que c'est comme Portal, c'est une succession de niveaux ou... Parce que là, ça a l'air un petit peu. Peut-être
Portal, c'était des salles, non? Des salles successives.
C'est... Ouais. Hein. Bah, c'est comme Portal 2, hein, des enchaînements salles.
Parce que ça, j'avais l'impression que c'était dans des environnements ouverts aussi, là.
Ouais,
dehors,
c'est pour ça, là, j'avais l'impression qu'il y avait de l'environnement ouvert aussi.
Oui.
Ouais, bah après, il faut voir la largeur des environnements aussi, tu vois.
Ah enfin, oui, tu penses que c'est juste des très gros environnements?
Bah, après, en fait, le truc, c'est que moi, ce qui me fait peur, si tu veux, c'est que en termes de puzzle, moi, je préfère des petites salles où t'as réfléchi ton truc plutôt que des trucs où tu vas t'étaler et tu vas t'emmerder à modéliser plein de trucs qui vont servir à rien, en fait. Surtout quand t'es indépendant comme ça, tu sais. Je sais pas s'ils ont le budget pour, quoi.
Déjà c'est ambitieux le projet déjà.
Oui, le projet est super ambitieux et c'est le concept est original et alors ça sort partout sur ce, sauf sur Switch hein, pour information à voir mais encore une fois
ça me paraît
ouais,
beau pour
y a,
de la Switch
y a,
quand même
il
hein,
y a de la concurrence en avis, face quoi hein, c'est va falloir se lever tôt quand même hein.
Ouais. Ouais, parce que Portal, c'est quand même...
Après, c'est une belle proposition. On croule pas sous les jeux comme ça non plus.
Non, oh, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup.
Bah, c'est tellement dur à faire.
Ok, donc on passe au jeu suivant qui a l'air intéressant, hein, celui-là. Hein. C'est The Plucky Squire.
Alors là, tu vois, là, The Plucky Squire, c'est mon highlight de tous les jeux qui ont été présentés durant...
Ah bah, je pense qu'il met la barre très très haut, celui-là, hein, on va pas se mentir. Hein.
Alors, je précise, c'est fait par un ancien... Enfin, le patron du studio est un ancien de chez Game Freak. Il a travaillé pendant 12 ans sur Pokémon, où s'est occupé du design des Pokémon, etc. C'est un des rares occidentaux. D'ailleurs, c'est le premier occidental à avoir bossé sur Pokémon. Et du coup, là, très récemment, il a fondé son studio. Et donc ça, c'est le premier projet de son studio.
Eh ben, il envoie du lourd. Hein,
il envoie du
c'est...
très très lourd. Ça donc vous imaginez, au début, en plus, le trailer, et donc allez mater le trailer si vous pouvez le voir, de Plucky Squire, parce que ça vaut vraiment... S'il y a deux trailers à voir, c'est vraiment cette semaine, je pense que lui, il en fait partie. Et très honnêtement, au début, on le voit circuler dans un livre, donc on a l'impression que c'est un petit gameplay 2D avec des hommages à Punch-Out, des hommages à différents jeux Nintendo, pas que d'ailleurs.
Et avec un design très comics dans la partie 2D, en fait.
C'est
ça. Comics pour enfants, tu vois.
Ouais, c'est ça. Ouais, plus livre pour enfants, un petit peu.
C'est ça.
Les dessins un peu arrondis, assez simples. Et là où ça devient n'importe quoi, donc c'est au moment où il sort du livre pour s'attaquer à un environnement 3D dans une espèce de chambre, et où vous vous rendez compte que là, vous allez pouvoir alterner entre le 3D et la 2D, il y a des phases de shoot'em up dans des tasses,
et
ça a l'air complètement fou.
C'est le moment où tu te rends compte qu'en fait, le jeu, c'est A Link Between Worlds,
mais, vraiment,
mais
ouais, c'est
dans
ça.
Une maison, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ouais. Exactement ça. C'est la réponse de Link Between Worlds, mais ça a l'air incroyable.
Parce que en plus, là, il y a le livre, mais à partir du moment où il sort dans le livre et où il passe dans le monde réel, il y a un moment, par exemple, il croise une tasse, il rentre dans la tasse et tu sais, il fait le tour du dessin de la tasse en fait, avec un gameplay dedans. Et le truc que je trouve fou aussi, c'est au-delà, tu sais, du design qui est super léché, c'est que à chaque fois, t'as une phase de gameplay différente en fait.
Ouais. C'est beaucoup dommage à plein de jeux.
Au début, t'as du Zelda, puis ensuite t'as du Punch-Out, et à un moment donné, il se balade avec une roquette dans le dos. Enfin, tu fais, mais c'est quoi ce jeu, quoi?
Ouais, t'as
à quel
t'as
moment
du Mario
il
Odyssey,
quoi.
Ouais, ça a l'air énervé. La transition quand il sort du livre, ça met la fièvre.
Ah ouais,
parce qu'au début, moi, je matais le trailer, je me disais, bon, c'est ultra beau. Il y a l'air d'avoir en plus du gameplay varié, mais je pensais que c'était un petit jeu, t'allais parcourir le livre et terminer.
Oui,
tu
moi
vois
je pensais ça aussi, ouais.
Et quand il sort du livre, tu prends une fièvre. Tu dis, ah d'accord. Le
donc
jeu,
ça,
en
c'est
fin
un
de
des
compte,
jeux qui a été présenté chez Devolver. Hein,
oui, oui, non, mais Devolver. Premier... On aurait pu parler des 4 jeux de Devolver, mais on voulait pas faire les forceurs, mais franchement, celui-là, on ne pouvait pas
ne pas passer à côté.
Ah ouais, non, mais c'est un des meilleurs trailers.
De toute façon, dès que je l'ai vu, j'ai dit, celui-là, je l'achète.
Mais non, mais celui-là, ouais, c'est...
Par contre, sur Switch, je sais pas.
Quoi. L'animation, elle est grandiose.
Ouais.
Et puis là, quand il sort du livre, bon, là, ça te met. Là, c'est trop abusé.
Alors, moi, la question que je me pose, effectivement, c'est que le jeu, il est censé sortir sur PS5, Xbox Series, PC et Switch.
Ouais, sur Switch, je sais pas.
Si, je pense qu'en 720p, ça passe.
Et par contre, le truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas d'annonce sur Xbox One et PS4.
Ça, par contre, ouais, c'est chiant. Ça commence à être chiant.
Ouais, c'est bizarre.
Mais surtout, ça n'a aucune logique en plus.
Non,
parce que tu
logique.
Sors sur Switch.
Oui.
Tu le sors sur Switch, mec.
Non, puis ça tourne. Je suis désolé, mais ça tourne sur PS4. Ça tourne.
Après, sur Switch, je suis pas sûr que les parties 3D, ça soit bien.
Ah, si, ça va. Attends, sur Switch, t'as du Mario Odyssey. Faut pas abuser.
Mario Odyssey, je le trouve pas super beau, hein, quand même. Hein. Au niveau du design, il est génial, mais au niveau du moteur, tout ça, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors que d'habitude, pour moi, les Mario, ça m'a toujours mis une claque, mais celui-là, j'étais déçu. Alors, est-ce que c'est le support, la Switch qui fait que? Je sais pas.
En tout cas, les environnements 3D, je pense que ça va le faire.
À voir, en tout cas, moi, c'est un de ces jeux qui fait que je suis... Enfin, franchement, tu m'aurais fait jouer à ça quand j'étais gamin, mais j'aurais été
mais
fou,
c'est
quoi.
Ça, si t'es un gamin, jouer avec... Ouais, jouer à ça avec vos gamins, à mon avis, c'est safe bet. Hein.
Ouais, franchement... Ouais.
C'est peu de risque pris, là. Ouais, c'est vraiment peu de risque pris.
Un très très bon jeu. Alors, donc là, c'est Kafka, tu nous parles de...
Alors,
Skate
Skate Story... Honnêtement,
pas de date de sortie, on précise, hein, pour Plucky Squire.
Ouais, Plucky Squire, pas de date de sortie, c'est vrai. Mais qu'ils prennent leur temps, hein, ça a l'air tellement ambitieux.
Oui, franchement, vaut mieux attendre.
Ouais,
à mon avis, c'est fin d'année Noël, ça.
Franchement...
Je pense. Hein.
Ouais, bah Skate Story, c'est donc un autre jeu de la conf Devolver dont dont j'avais envie de parler, parce que le trailer, déjà, m'a mis une claque, mais d'une violence, ce trailer. La musique, l'ambiance, tout. C'est un trailer, je sais pas, j'ai dû le mater, je l'ai vraiment maté plusieurs fois, et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est abusé, qu'est-ce qu'il a une âme, ce jeu. Alors, de quoi on parle, Skate Story ? On parle d'un jeu, alors évidemment, ça, environnement 3D avec du skate, mais vous jouez un démon en verre. Donc, imaginez faire du skate quand vous êtes en verre. Vous imaginez ce qui se passe quand vous tombez. Et, ouais. et en gros, le diable vous a lancé un défi. L'objectif, c'est d'aller manger la lune. Et il vous a filé un skate.
D'accord, ok. La drogue.
Donc, le jeu... oui, mais tu vois, ça veut dire que tu fais du skate, t'as pas envie de tomber parce que là, t'as un mec en verre. Et quand il tombe, l'effet, je le trouve saisissant. Moi, dans le trailer, quand on le voit tomber, l'effet, à chaque fois, il me fait quelque chose. Et puis là, tu sens qu'ils aiment le skate, parce que j'ai l'impression que quand même, ça a l'air carré au niveau du gameplay.
On en reparlera après. Je vous mettrai une vidéo du proto du jeu. Et très clairement, c'est du... ils ont pompé sur skate. Hein. D'un point de vue gameplay, tu vois que c'est skate.
Ce qui est plutôt bon. Ce qui est plutôt... Oui. Ouais, hein.
Oui, oui, oui.
Donc déjà...
Non, parce que tu pourrais t'attendre à des contrôles arcade, tu sais, mais a priori, pas du tout. Hein.
Oui, puis j'ai l'impression... Skate, mais hein. C'est pour ça, j'ai l'impression que le jeu va être assez dur. Et puis, les environnements que tu parcours, ils sont... parce que dans le trailer, ils disent que tu parcours l'underworld, donc c'est-à-dire, je sais pas comment ça se traduit en français, l'underworld, très honnêtement, mais le monde du dessous, voilà, vous êtes dans un monde un peu démoniaque. Le jeu fait par une seule personne.
Une seule personne qui a fait ça.
Une seule personne qui a fait ça.
D'un point de vue esthétique, on est un peu dans du Sayonara Wild Arts. C'est.
Ouais, ou même du El Shaddai, un peu ce genre d'ambiance.
El Shaddai, c'est quand même un peu plus comics, je trouve. Là, quand même, t'es dans des vrais environnements 3D. En fait, c'est un jeu, si tu veux, très épuré, avec beaucoup d'effets de particules.
C'est ça. Ça ressemble à rien vraiment, en fait. Hein.
C'est ça. Si, regarde Sayonara Wild Arts, je trouve qu'il y a quand même un truc.
Bah, mais bref. Ouais, je l'avais fait, ouais, bref. Mais en tout cas, bon, déjà maté le trailer, parce que c'est à ce niveau-là, c'est limite du court-métrage.
Ouais.
Et puis voilà, le jeu a l'air fou, quoi. Ce jeu-là. Alors,
moi, la seule question que je me pose, bon, là, je pense que tu vois, ils ont fait un trailer, donc bon, ils ont mis des angles de caméra un peu particuliers et tout, tu vois, pour faire de la mise en scène, etc. Il faut voir. Enfin. Je me pose des questions sur la caméra, etc. Comment ils vont gérer ça, parce que ça va être compliqué.
Ah bah, faut que le gameplay soit carré. Et ça, c'est pas sur un trailer qu'on va pouvoir le juger.
Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement.
Tu vois. Mais je veux dire, là, comme on... Tu vois, on est en période de... C'est un petit peu le jeu, je trouve. On est en période d'annonce, on est en période de trailer, etc. Et je trouve que Devolver, avec ces deux trailers-là, on pourrait même rajouter Cult of the Lamb aussi, et même l'autre, Hungerfoot, en vrai. On pourrait les rajouter. Mais rien qu'avec ces deux trailers-là, mais je trouve que ça met tellement claque sur claque. C'est la violence. Franchement, la violence.
Juste, ouais. Je vais vous montrer quand même le proto qu'ils avaient montré en 2020. Vous allez voir, là, on est vraiment sur du gameplay très carré. Alors, vous voyez déjà qu'il y a eu de l'évolution depuis. Hein. Tu sens qu'ils ont bossé quand même. En termes de contrôle, tu vois que là, c'est du vrai gameplay. Tu vois que c'est du vrai skate.
Ouais.
Hein, ils sont pas là pour déconner ou voilà. Si vous êtes amateur de jeux de skate, sauf à moins qu'ils aient changé depuis de fusil d'épaule et qu'ils aient complètement transformé le gameplay, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir, quoi.
C'est clair. Franchement, c'est clair. Moi, je suis pas amateur de jeux de skate du tout, mais rien que pour l'ambiance, la musique.
En fait, c'est des zones avec des obstacles, quoi. Tu dois passer la porte, en fait, pour passer à la zone suivante. Si j'ai bien compris. Enfin, c'est de
J'imagine. Hein. De toute façon, t'es en verre, donc la moindre chute, elle est fatale. Ouais.
Alors là, après, attention, c'était un proto. Hein. Donc, ouais, c'est un proto. On sait pas comment ils ont structuré le jeu. Il faut voir comment ça a été fait en derrière.
Ouais.
Donc bon.
D'accord.
Ouais. Mais en tout cas, en termes de claque artistique. Pour moi,
oui,
celui-ci,
ça se pose là quand
ouais,
même.
Ouais, ça se pose là. Merci. Franchement, voilà. Donc, au moins que Alors, qu'on fait tout puisse nous amener des trailers comme ça fait plaisir.
Voilà. Tu vois, là, moi, je voulais terminer là-dessus, vu qu'on a un peu de temps en rab et que le podcast était plutôt court.
Ouais, alors qu'on pensait qu'il serait ultra long. Je sais pas à combien on est, mais on est bien là.
Ah, mais c'est parce qu'ATH est endormi, c'est pour ça.
Je sais pas où il est là.
Donc, moi cette année, alors j'ai pas regardé les confs, parce que je sais que la conf du père Killy était chiante, a priori. Enfin, ils ont terminé sur un quart d'heure de The Last of Us à parler de séries, de trucs dont on n'a rien à foutre, visiblement. Donc, mais d'une manière générale, moi, je ressors de cette période. Enfin, je dis ça, mais on a complètement zappé les jeux, tout ce qui a été annoncé chez Xbox ce soir. Hein. Mais d'une manière générale, je trouve que cette année, c'est un bon cru, tu vois. Franchement, il y avait de quoi faire. Chez Devolver, alors certes, il y avait que quelques jeux annoncés, mais c'était 4 jeux cool. Ah ouais. Et puis surtout, le show était bien.
Puis dans une démo, Cult of the Lamb, il y a une petite démo, donc c'est sympa.
Et d'une manière générale, je trouve que chez les indés, ça commence à être chaud. Moi, en plus, pour le coup, je suis un peu emmerdé parce qu'il y avait des jeux que j'ai retirés parce que je me suis dit, ouais, non, ça va être trop long, on va y passer des heures. On finira jamais et au final on a bouclé en une heure et j'aurais pu les mettre. Mais chez les indés cette année il y avait beaucoup de choses qui sortaient de l'ordinaire. Quoi,
Ouais. Là tu sens maintenant que c'est la créativité vraiment qui est. Enfin tu vois.
C'est clair.
Honnêtement Skate Story là ça tourne. Tu vois c'est pas tellement la prouesse n'est pas tant technique, elle est plutôt artistique et je trouve que tant mieux si le jeu vidéo commence à en arriver dans une période où on va comparer des exercices de style, on sera gagnant, nous les joueurs.
Moi, ce qui m'impressionne avec ce jeu, c'est qu'il a été fait par une seule personne, quoi.
Tu vois comment c'est ouf. Ah ouais.
Chapeau, hein.
Ouais, il y a des gens qui ont une créativité, hein. Vraiment.
Oui, pour moi, j'aurais jamais pu faire ça. C'est clair. Impossible.
Voilà. Ben écoutez, okay. Ça aurait été un podcast plus court que prévu cette semaine.
Ouais,
oui,
hein. Ouais.
Il leur faut de temps en temps aussi.
Bah oui, hein, on en fait souvent des longs, autant en faire des. On dira pas qu'on est tout le temps long comme ça.
Je crois que le dernier c'était le record, hein, plus de 3 heures.
Ouais, c'est pour ça. Là, si on en fait un cours, c'est bien aussi.
C'est ça, on a tout donné la semaine dernière. Là, on voulait finir tôt cette semaine. En plus, ATH, là, il nous a quittés, donc.
Oui, je sais pas, il est où ATH, t'es là?
Non, mais il s'est endormi, là, c'est bon. Hein. Mais je t'assure, je suis sûr qu'il s'est endormi, quoi.
Ça le faisait chier, il s'est endormi sur le.
Bon, allez, okay, les gens, okay. Pour le coup, merci de nous avoir écoutés.
Ouais. Voilà. Puis, merci au chat. Hein.
Ouais, puis ça fait du bien aussi un podcast où on parle que de jeux et c'est pas mal. Franchement, là, c'était.
Cool. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Discord, sur le Twitter @gameinfo. Regardez l'émission sur le Twitch et téléchargez le podcast sur iTunes ou Podcast Addict ou tous les agrégateurs de podcasts. Et si vous aimez, partagez-le. Voilà.
Donc venez nous faire coucou sur Discord, ça fait toujours
ça
plaisir.
Fait toujours super plaisir.
Là, on a encore une personne qui a débarqué sur le Discord cette semaine.
Oui, c'est Kiri, je crois, non?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Il était persuadé qu'on était une énorme commu.
Bienvenue à lui.
Ouais, bienvenue à toi. Puis, persuadé qu'on était une énorme commu, il s'est dit, mais en fin de compte, non, c'est plutôt cool. Donc voilà, si vous avez l'impression que nous sommes des millions, détrompez-vous, venez.
Non.
Voilà, on est une petite poignée, mais la qualité plutôt que la quantité.
Bonne soirée à tous.
Allez, bonne soirée.
Des bisous les gens.
Des bisous.
Des bisous.